thème de ce dimanche, Gaudete, c'est la joie. La joie qui est déjà une espérance, on dit sauvé dans l'espérance. Enfin, on, Saint Paul, a cette belle formule, sauvé dans l'espérance, et aussi le don de la joie dans l'espérance. En pensant à ce dimanche, il me revenait une scène du beau film, peut-être que certains d'entre vous ont vu, sur les moines de Tibérine, des hommes et des dieux. Vous avez une très belle scène qui reprend le thème de l'Eucharistie, alors qu'ils ont décidé ensemble, en communauté, de rester, de donner leur vie. En fait, ils savent certainement qu'ils vont mourir. Et il y a ce repas du Jeudi Saint, et il arrive, c'est Michael Lonzal, là, qui fait frère Luc, qui est médecin. Il arrive avec des bouteilles de vin, et on voit à la fois la gravité, la tristesse qui se lit, et en même temps une joie indicible qui se lit sur les visages. C'est une scène de toute beauté que personnellement, j'aime beaucoup. Et je me disais, voilà, il y a différentes formes de joie. Là, c'est une joie très, très grave et en même temps très belle, de communion très profonde. Il y a des joies aussi plus faciles, plus exaltantes. Joie de Noël dans les rues, par exemple. Joie d'un cadeau, joie de l'amitié. Joie aussi qui peut être toute spirituelle, joie d'un travail bien fait, des heures, et puis de présenter quelque chose qui est beau, qui fait du bien, qui nous réjouit. C'est des vraies joies spirituelles. Et puis je pensais aussi joie de célébrer l'Eucharistie. Chaque fois, il y a quelque chose qui nous dépasse, tellement, tellement grand, tellement haut, et on a quelque chose de joyeux à accueillir. Voilà, nous qui sommes témoins de ce mystère de Dieu. Les joies ont différents niveaux, mais en tout cas, la joie marque profondément notre humanité. Et en même temps, elle est aussi un fruit du Saint-Esprit. Hein. La paix et la joie sont intimement liés dans la culture biblique et notamment dans le Nouveau Testament. Et là, on voit dans ce troisième dimanche de Pâques des lectures très centrées sur la joie. Et en même temps, quelque chose d'assez paradoxal, c'est que le personnage principal, on l'a déjà rencontré dimanche dernier, le dernier, le plus grand des fils des hommes, dira Jésus, eh bien c'est Jean-Baptiste qui n'a pas un aspect très, très clinquant. Il n'est pas dans les grands palais, il est au désert. Et les foules viennent au Jourdain pour se faire baptiser par lui. Et ils viennent attirer, en fait, on le sait, avec ce baptême de l'eau, baptême du repentir. En fait, ils vont chercher chez Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, quelque chose qu'ils ont perdu, qu'ils ne trouvent plus au fond de leur cœur. Et ils vont cela faire un déplacement réel au Jourdain, dans le désert, voilà, à quelques lieues de Jérusalem. Et c'est très étonnant, en fait, de penser que toutes les foules sont attirées comme ça, les riches, les pauvres, les étrangers, les locaux. Tous sont attirés à Jean-Baptiste, et Jésus lui-même prendra la foule, se mettra dans la foule pour être baptisé. Et plus tard, il marquera cet étonnement aussi. Il y aura une querelle avec les pharisiens, il dira aux foules, à son auditoire, « Mais qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert, en fait ?» Qu'est-ce qui a attiré votre cœur là-bas? Et il dira, qu'êtes-vous allé regarder? Un roseau agité par le vent? Non. Êtes-vous allé voir un homme habillé avec des vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'est-ce que vous êtes allé chercher au désert? Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Un prophète? Et Jésus dira, oui, et je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Et puis là, il aura une tirade très belle sur Jean-Baptiste, comme le plus grand des fils des hommes qu'une mère ait porté, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux. Les personnes vont à Jean-Baptiste parce qu'ils reconnaissent un prophète, un ami de Dieu. Et Jésus précise qu'il n'est pas grand selon les critères mondains, on le sait, il est vêtu d'une peau de bête, il mange du miel sauvage, et pourtant tous viennent à lui, à Jean-Baptiste. Il ne séduit pas, il attire. Et c'est une grande différence. Le séducteur, vous savez, c'est un nom qu'on donne au diable, celui qui séduit, celui qui... Mais Dieu et ses prophètes ne séduisent pas, ils attirent et c'est tout à fait différent. Pape François aime bien dire, eh bien, c'est la différence entre l'évangélisation et le prosélytisme. Eh bien, on évangile par attraction, en attirant. Et il y a quelque chose qui est sublime chez Jean-Baptiste, pourtant qui n'est pas clinquant et qui attire ses foules. Ce qui est sublime chez lui, eh bien, c'est qu'il est habité par la présence de Dieu. et les gens le reconnaissent et vont à lui. Voilà. Et la joie qui émane de leur personne, au-delà de toute superficialité et leur certitude, jusque dans l'épreuve d'être sous le regard de Dieu. Et c'est ça qui attira aussi chez Jésus. Il le dira sans cesse, hein, mon Père et moi, nous sommes un, je ne dis rien ce qu'ont mon Père. Et c'est la présence de Dieu qui attire en Jésus, comme chez Jean-Baptiste. Et il y aura aussi ce moment où Jean-Baptiste lui-même, eh bien, sera réduit, encore, hein, il le dira, il faut que lui grandisse et que je diminue, et effectivement, il va diminuer, il sera jeté en prison. Alors, au niveau social, évidemment, ce n'est pas extraordinaire. Il est la risée de tous, on pourrait dire, parce qu'il condamne Hérode dans sa manière d'être, de faire, lui qui veut épouser la femme de son frère. Et puis aussi, il va être éprouvé jusque dans son cœur. Il va envoyer des émissaires dire à Jésus, mais est-ce que tu es vraiment le Messie, celui pour quoi j'ai donné toute ma vie? Ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre, alors qu'il est au seuil de se faire décapiter? Eh bien, il a ce doute très fort, qui l'habite. Jésus répondra, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et il dira, un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Jean-Baptiste se reçoit totalement, eh bien, du Seigneur, rien ne lui est donné, même pas sa foi, lui est rendue par Jésus, qui va lui dire, allez dire à Jean-Baptiste, eh bien, que les lépreux sont guéris, que les paralysés marchent, que les aveugles voient, et c'est les signes messianiques. Et Jean-Baptiste, eh bien, dans cette épreuve, comme dans la joie de sa prédication, eh bien, parlera de sa joie profonde. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il est clair que Jean-Baptiste propose à ceux qui viennent à sa rencontre, non pas une joie mondaine, selon les critères qui viendraient naturellement à l'esprit. Il y a ici un paradoxe, quelque chose qui nous étonne, qui oblige aller chercher davantage en profondeur, à partir au désert, comme ces foules qui vont à Jean-Baptiste, comme le peuple en chemin vers la terre promise. Et la première lecture nous invitait comme cela, et c'est aussi un autre prophète, Sophonie, cette fois dans l'Ancien Testament, qui invite le peuple en exil, loin de sa terre, dans l'épreuve, loin de Dieu, loin de tout, comme Jean-Baptiste dans sa prison, à pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis, le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Vous voyez, il y a un paradoxe très fort, très profond, entre la joie qui est demandée par le prophète et l'état dans lequel est le peuple d'Israël, loin de sa terre. Et pourtant, il lui dit, mais pousse des cris de joie, parce que le Seigneur est fidèle, il te ramènera mieux, il fera de toi sa joie, il te transformera. Et c'est ça l'espérance d'Israël, qui ne le lâchera pas, c'est ça l'espérance de Jésus aussi, jusque sur la croix. C'est l'espérance, eh bien, du peuple de Dieu en marche. Et finalement, c'est la joie aussi du retour à Dieu. Et c'est la joie de ces foules qui vont au désert. Elles vont au désert, eh bien, pour que quelque chose se passe dans leur vie, que quelque chose de plus heureux, de plus profond, puisse se produire au plus profond d'eux-mêmes. Le peuple laisse les palais pour aller chercher Dieu, où il se laisse trouver, dans la pauvreté du désert, c'est là qu'ils vont chercher la joie. Mais c'est aussi la pauvreté de Bethléem, ce sera la joie des bergers, la joie des mages aussi, la joie de Marie et de Joseph. C'est aussi la joie de Nazareth, pendant 30 ans, dans un « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» La joie de Dieu, la joie profonde de Dieu, eh bien, se révèle d'une manière particulière dans ce qui est petit et dans ce qui est pauvre. Elle vient, et c'est tout le paradoxe de Noël aussi, elle vient dans l'obscurité de ce monde. Au plus profond de la nuit, la joie de Dieu va resplendir en cette nuit de Noël, encore une fois, comme elle vient dans nos vies et dans nos cœurs, quelquefois au plus profond de la nuit. Alors on comprend bien la question du peuple qui vient à Jean-Baptiste, en fait. Tout le monde pose cette question, on l'a entendu trois fois. Que devons-nous faire? Les foules posent cette question. Les publicains posent cette question, mais que devons-nous faire? Les soldats posent cette question, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Eh bien, finalement, pour acquérir cette joie profonde, pour acquérir cette profondeur nouvelle qu'on voit chez Jean-Baptiste. Et c'est la question, finalement, qui va traverser toute la Bible. C'est la question du peuple en exil, que devons-nous faire? C'est la question aussi à la Pentecôte. Vous savez, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, ils sortent, Pierre a cette fameuse prédication qui fait 2000 conversions, et les auditeurs disent, parce qu'ils ont le cœur touché par Dieu, il y a quelque chose qui se passe, la question c'est, mais que devons-nous faire? Finalement, c'est la question de tout homme, que devons-nous faire? Et les prophètes dans l'Ancien Testament vont répondre à cette question assez grave, parce que le peuple a conscience que s'il est loin de sa terre, loin de la terre d'Israël, loin des promesses de Dieu, loin du temple, loin de tout ce que le Seigneur lui a donné, c'est parce qu'il a péché. Mais comment réparer? Et que devons-nous faire? Alors dans le livre de Michée, il y a un très beau passage que je vous livre, où le peuple a besoin d'être généreux avec Dieu. Et c'est beau ça, le peuple a besoin d'être généreux avec Dieu. Jean-Baptiste a tout donné, hein, il est au désert, des hommes et des femmes donnent tout, et le peuple arrive, mais que devons-nous faire? Comment être généreux avec Dieu? Et quelquefois, cette générosité, cet élan peut dépasser, peut être excessif, trop. Et Dieu ne demande pas ça, forcément. Je vous lis ce passage très éclairant. Le peuple demande, comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple, en exil encore une fois. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Combien tu veux? Des chameaux, combien tu veux? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers? Avoir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte? Le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Comment puis-je réparer en fait? Et le prophète répond, « Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. » Pas dans l'excès forcément, et encore moins dans la mort du premier-né. Le Seigneur n'a jamais pensé à ça, dira un autre prophète. Il n'y a même pas songé. Ce que veut le Seigneur, eh bien rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Et alors Jean-Baptiste au Jourdain, il a une réponse de prophète, des grands prophètes d'Israël. Que devons-nous faire? Eh bien, si tu as deux vêtements, donne un vêtement aux plus pauvres, donne de ta nourriture à celui qui en a besoin. Il dit ça aux foules. Au percepteur d'impôts, il dit, mais faites votre métier, rien de plus. Et aux soldats, il dit, mais n'en profitez pas, mais faites tout cela avec justice et avec respect. Et ce que réclame le Seigneur à celui qui se tourne vers lui n'est pas une escalade dans le sacrifice qui peut aboutir finalement jusqu'au blasphème. On le sait bien, il y a des gens qui vont tuer au nom de Dieu. Pape François rappelait avec les attentats notamment, eh bien, que tuer au nom de Dieu, porter la main sur la vie au nom de Dieu, c'est un blasphème, ça dénature finalement complètement qui est Dieu. Et c'est la tentation du peuple d'Israël. Dois-je donner mon premier-né en réparation de mes péchés? Évidemment, celui qui va réparer, eh bien, c'est celui que nous attendons à Noël, celui qui donne la joie véritable dans l'excès de l'amour sur la croix, c'est Jésus. La joie s'identifie à une personne, à un visage, un poupon dans la crèche, on pourrait dire, c'est Jésus. Qui vient réparer, qui vient sanctifier et qui vient redonner la vie là où bien on était si loin de Dieu. Et Dieu se fait tellement proche, c'est la joie que les foules viennent chercher auprès de Jean-Baptiste. Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. Et c'est assez beau d'avoir cette parole du prophète finalement très concrète qui ne va pas aller chercher dans des choses impossibles à réaliser. Il y avait une fois un repas avec des personnes qui avaient la chance de connaître Mère Teresa, qui l'avait invitée. Et puis il y avait une jeune fille très généreuse et qui était toute heureuse d'accueillir Mère Teresa comme cela dans la famille. C'était très privilégié. Et puis du coup, elle ouvre son cœur à Mère Teresa, pensant faire quelque chose de bien, en disant tout son désir, son rêve d'aller soigner finalement les lépreux, les pauvres, les malades, jusqu'à Calcutta. Et Mère Teresa, de la regarder, lui dit, mais écoute, tu es assise depuis le début du repas, Si tu veux donner du bonheur, commence par aller aider ta mère à faire la vaisselle à la cuisine. Évidemment, c'était un peu froid pour cette jeune fille, mais eh bien, c'est tout le concret finalement. La joie, elle est à donner aujourd'hui et maintenant. Elle n'est pas dans les excès, elle est souvent dans notre vie ordinaire, aujourd'hui et maintenant, dans une réalité qu'on n'a pas forcément choisie d'ailleurs, quelquefois un peu sombre, mais où nous sommes appelés à donner la joie. C'est la parole du prophète. Que devons-nous faire? Rien d'autre que de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. C'est la joie qui traverse toute la Bible. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec ton Dieu. Mais qu'est-ce qui attire encore davantage? Quelle est la bonne nouvelle? Tout cela, nous l'avons fait, pourra dire le jeune homme riche aussi. Que devons-nous faire? Les commandements. Mais une joie plus grande encore, c'est la joie de Noël. Finalement, pas tant par que devons-nous faire, mais qui devons-nous attendre? Et c'est aussi une très bonne question, deux grandes questions en ce jour. Que devons-nous faire? Qui devons-nous attendre? C'est Jésus. Mais qui suis-je? Dira Jésus à ses amis, à ses disciples. En fait, qu'attendons-nous à Noël? Qui attendons-nous? Quelle est la joie que nous voulons? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dit souvent Jésus dans l'Évangile. Mais il vient celui qui est plus fort que moi, dit Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Vous voyez, il y a deux choses dans la réponse du prophète, du plus grand des prophètes. Que devons-nous faire? On a répondu à cette question. Mais il vient celui qui est plus grand que moi. En fait, la joie, elle est donnée, elle vient du ciel. La vérité germera de la terre et du ciel, eh bien, descendra la justice. C'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est l'expérience que feront les disciples de Jean-Baptiste au Jourdain. Ils seront restés avec lui tout un temps, à son écoute, et tout d'un coup, comme le prêtre tout à l'heure à chaque Eucharistie le fera, il verra Jésus qui passe en face. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici Jésus. Et les disciples laisseront Jean-Baptiste pour aller à Jésus, qui se retournera. Qui cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Et ils vinrent un moment avec lui, c'était la sixième heure. C'est l'invitation à demeurer un moment avec Jésus pour accueillir sa joie, une joie qui ne vient pas de nous, mais une joie qui nous est donnée et qui vient du ciel pour habiter notre terre, habiter notre humanité. Alors pour nous, simplement quelques pistes, je vous en donne trois pour cette semaine, si vous voulez, pour nous préparer à Noël. D'abord, une conversion du regard. Voilà, la joie qui est proposée, elle n'est pas forcément dans les palais lumineux, mais nous avons besoin d'aller chercher la joie dans le visage de Jean-Baptiste, qui est là, hein. Voilà, habillé loin, pas d'une manière somptueuse, mais il est porteur de la joie véritable. Voilà, qui est pour moi une icône de joie en fait? C'est quoi la joie que je vais chercher? Bah, c'est une bonne question pour réfléchir. Voilà, quelle est la joie que je cherche? Aussi, deuxième piste, c'est la joie de la simplicité dans notre ordinaire, au désert, à Bethléem, à Nazareth, et nous sommes appelés à partager cette joie. Comment cette semaine? Eh bien, dans mon quotidien, dans mon Nazareth. Eh bien, je vais donner de la joie à ceux qui m'entourent, à ma femme, à mes enfants, mes petits-enfants, à la personne que je croise dans la rue. Voilà, comment est-ce que cette joie de Noël, je peux la transmettre, la communiquer? Et troisième piste pour nous, donc c'est aussi eh bien cette joie qui vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de Dieu. C'est l'étoile que vont suivre les mages. Voilà, comment est-ce que j'attends davantage la joie qui va descendre à Noël? Évidemment, dans toutes les églises du monde, mais aussi dans les cœurs de ceux qui attendent Dieu, de ceux qui attendent Jésus. Voilà, et bien demandons au Seigneur d'entrer dans cette joie qui nous est donnée d'une manière particulière en ce dimanche. Demandons aussi d'orienter notre joie, et bien vers Noël, vers ce grand mystère où Dieu se fait homme pour venir nous sauver, pour venir nous faire du bien, pour venir nous guérir, nous consoler et nous conduire.